Avec Suno Assurance, pensez à renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Raphaël Constant.
Bonjour à toutes et à tous. Autrefois appelé mélancolie, spleen, l'état dépressif était déjà décrit par Hippocrate dans ses analyses des pathologies mentales. Troubles de l'humeur, du sommeil, de l'appétit, tristesse, fatigue, angoisse ou pessimisme généralisé, lorsque ces périodes pesantes ne sont plus épisodiques, lorsque les idées noires prennent le dessus sur l'envie de se lever et que ce malaise est amplifié par une culpabilité de son état, voire une crainte de ne pas aller mieux, il s'agit bien d'une dépression. Selon l'Organisme mondial de la santé, plus de 300 millions de personnes sont confrontées à la dépression dans le monde. Un trouble mental qui, dans le pire des cas, peut conduire au suicide. La dépression, un problème de santé publique donc, encore sous-diagnostiqué, voire tabou, car ces maladies mentales font peur. Et pourtant, la dépression touche tous les âges. Plus difficile à diagnostiquer chez les adolescents, elle peut masquer d'autres pathologies. Pourtant, le diagnostic et l'accompagnement sont primordiaux, car traiter une dépression, c'est d'abord accepter de se faire aider pour retrouver confiance en soi. Alors qu'est-ce que la dépression? Comment en reconnaître les signes? Comment fonctionne le cerveau d'une personne en état dépressif et comment y remédier? Tour d'horizon avec nos invités. Santé mentale, pour en parler en studio avec nous aujourd'hui, docteur Marie-Claude Gavard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre, psychothérapeute et psychanalyste à Paris et auteur de l'ouvrage « Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ?» aux éditions Marabout. Nous retrouverons tout à l'heure en direct du Bénin le professeur Prosper Gandao, chef du service de psychiatrie du centre hospitalier départemental et universitaire du Borgou à Parakou. Et en fin d'émission, nous faisons le point sur les programmes de formation des pharmaciens initiés au Vietnam par la fondation Pierre Fabre. Nous en parlerons avec Béatrice Garrett, directrice générale de la Fondation. Et si vous avez des questions à nous poser ou un témoignage à apporter, nous attendons tous vos appels au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Marie-Claude Gavard, quand on parle de santé mentale, de troubles psychiques, de quelle maladie il est question?
Alors, bon, il y a toute une cohorte de maladies psychiatriques, surtout à ne pas confondre. Vous voyez, on peut classer, diviser en deux grandes classes. Les névroses, c'est-à-dire tous nos petits dysfonctionnements. Bon, la dépression en fait partie. Et les psychoses, qui là sont des maladies plus sérieuses, plus sévères, qui coupent la personne de la réalité et qui incluent les délires, les hallucinations, etc. Donc, il faut bien faire la part des choses.
On peut parler donc de schizophrénie, de bipolarité par exemple?
Oui, c'est ça. La schizophrénie, là, fait partie des maladies chroniques, hein, ce que n'est pas en général la dépression.
Alors, il s'agit quand même de vraies maladies qui ont un impact social et économique pour des millions de personnes touchées. Est-ce que le handicap psychique est une notion reconnue aujourd'hui?
Alors, ça dépend des endroits, ça dépend de la gravité des choses et ça dépend aussi du patient. Est-ce qu'il se fait traiter? Est-ce qu'il se fait suivre ou non?
On a quelques chiffres, on sait qu'en moyenne, c'est 9 ans en moins d'espérance de vie, par exemple.
Oui, tout dépend de la pathologie, effectivement.
Et on a beaucoup de troubles psychiques qui sont même la première cause d'invalidité, d'arrêt de maladie de longue durée.
Oui, alors ça, il s'agit plus des psychoses, c'est-à-dire des maladies chroniques très invalidantes. Mais faisons bien la différence, il ne s'agit pas de la dépression.
Alors pourquoi les maladies mentales font encore peur, sont encore tabous et du coup sont mal connues?
Oui, tout à fait. C'est vraiment très dommage en fait, parce que les maladies chroniques psychiatriques, délirantes, les maladies graves comme ça, on ne sait pas forcément à quoi c'est dû. Et ce point d'interrogation fait très peur. De plus, tous les dysfonctionnements étaient mis un petit peu dans le même sac, si j'ose dire. Et donc, comparer quelqu'un qui est déprimé et quelqu'un qui est délirant est un non-sens, hein, un manque de connaissance. Et c'est pour ça que les personnes ont eu du mal à aller voir les psychiatres, qui étaient intitulés les psychiatres, les médecins des fous, alors que non, on ne parle pas du tout de folie dans la majorité des cas.
Non, de maladie. Oui. Docteur Marie-Claude Gavard, la dépression, donc, notamment, est une maladie qui est insuffisamment connue du grand public.
Oui, tout à fait. Et elle est dramatisée. En fait, je tiens vraiment à insister, parce que c'est un point de connaissance important à avoir, c'est que c'est une maladie physique à facteur déclenchant psychologique. Et d'ailleurs, les psychiatres aimeraient qu'il y ait un peu de fièvre et quelques boutons, comme ça, les patients iraient tout de suite se faire traiter. Malheureusement, il n'y a pas.
Alors, quels signes, quels symptômes peuvent permettre d'identifier une dépression ?
Alors déjà, c'est sur la longueur du malaise. Une personne qui a moins envie de faire les choses, qui rit moins, voire qui ne rit plus, qui pleure, qui a tendance à trouver sa situation extrêmement pénible. Souvent, c'est le cas. Elle est pénible, mais c'est la façon de réagir. Il y a beaucoup moins de réactions. Et il y a toute une cohorte de symptômes physiques, comme les troubles du sommeil, la fatigue, et psychologiques dans les comportement, c'est-à-dire il peut y avoir un isolement, des idées noires, voire même des idées suicidaires. Il y a beaucoup de symptômes possibles et on peut dire peut-être que c'est un malaise au quotidien.
Vous parlez d'ailleurs de malaise, de malaise physique, on parle même d'une tristesse douloureuse.
C'est ça, hein, c'est ce qu'on appelle une douleur morale. Et effectivement, la douleur morale dans la dépression est quasiment toujours présente.
Et alors, pour bien comprendre physiologiquement, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre corps ?
C'est-à-dire que notre cerveau, comme partout dans notre corps, il y a des réactions chimiques. Hein, et là, on appelle les neuromédiateurs, qui sont les substances qui font que notre cerveau fonctionne bien. Et lorsqu'il y a un ou plusieurs chocs psychologiques importants ou non, il peut y avoir un dérèglement de ces substances chimiques et les traitements permettent au cerveau à nouveau de fonctionner normalement.
Alors on reparlera des traitements peu plus tard si vous le voulez bien. Comment on peut différencier dépression, déprime ou même troubles de l'anxiété, coup de mou ? Parce que certains symptômes peuvent être similaires, la fatigue, l'eczéma, les troubles de l'humeur ou même la remise en question de soi.
Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, la déprime n'est pas du tout un mot médical. Hein. La déprime, on va dire, c'est une petite dépression, mettons.
Hein. Passagère.
Passagère, ou non. Et à ce moment-là, ça peut déboucher sur une vraie dépression avec une augmentation des symptômes. L'anxiété, c'est différent. L'anxiété est un des symptômes très fréquemment présents dans la dépression. Coup de mou, oui, ça peut être une petite baisse de morale. C'est lorsque les symptômes durent que l'on s'oriente vers le diagnostic de dépression.
Oui, il y a un facteur de temps, de durée.
Ah oui, tout à fait.
Et est-ce qu'il faut cumuler tous les symptômes pour diagnostiquer la dépression ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Et lorsque un patient fait une dépression et qu'il en fera une autre éventuellement, mais pas du tout forcément quelques années plus tard, ce sont souvent les mêmes symptômes qui réapparaissent. Par exemple, quelqu'un qui va être anxieux peut avoir une insomnie due à sa dépression. Et souvent, s'il y a à nouveau une dépression, il y aura à nouveau des troubles du sommeil.
Donc ça peut être un repère pour les personnes dépressives qui ne se rendent pas compte, qui ne l'admettent pas.
La première dépression est très intéressante au niveau de la connaissance de soi-même. Parce que si, par hasard, il y a une deuxième dépression un jour, elle sera beaucoup plus facile à diagnostiquer.
Et est-ce qu'il y a des facteurs de risque, des périodes ou des événements particuliers qui peuvent déclencher cette dépression ?
Ah bien entendu, bien entendu. Tout ce qui est grave, par exemple, on va dire les attentats, les guerres, bon, et au niveau personnel, les deuils, quelquefois le chômage, les ruptures conjugales, enfin les maladies. Oui, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent déstabiliser une personne.
Il y a certaines maladies, par exemple l'hypothyroïdie ou la sclérose en plaques, qui peuvent déclencher.
Alors ça, c'est encore une autre chose. Ce sont des dépressions qui sont dues à ce dérèglement physique d'une maladie. Mais on se pose aussi la question, une fois qu'une maladie est installée, est-ce que l'état de malade n'entraînerait pas une dépression ?
On peut parler aussi de surmenage, de harcèlement et même d'effets secondaires de certains médicaments.
Ah mais complètement, tout à fait. Et c'est-à-dire que les causes sont intéressantes à rechercher et c'est même fondamental pour pouvoir les traiter.
Et est-ce que l'environnement, et voire même le climat, peut impacter ?
Oui, bien sûr. Et notamment, la baisse de luminosité de l'automne peut entraîner des dépressions. Mais lorsqu'on a repéré ça chez soi, la luminothérapie, par exemple, est extrêmement efficace.
Est-ce que vous avez remarqué, vous, en consultation, une diminution ou une accélération, une augmentation des dépressions à cause du changement climatique ?
Alors, pas réellement, mais des dépressions saisonnières dues à la baisse de la luminosité, oui. Donc, je pense qu'il y aura un impact, effectivement.
Et docteur Marie-Claude Gavard, est-ce qu'on peut dire que la dépression est donc une maladie mentale fréquente, souvent diagnostiquée trop tardivement ?
Alors, trop tardivement, tout est relatif, mais bien entendu, à partir du moment où c'est une maladie qui se soigne bien, même très bien, il est dommage d'attendre et donc de souffrir, j'ai presque envie de dire, pour rien.
Mais alors pourquoi ? Parce que c'est difficile de reconnaître, d'admettre les symptômes. Pourquoi c'est tardif ?
Alors, je pense qu'il y a une méconnaissance et il y a une dramatisation des choses. Et de plus...
Stigmatisation même, non ?
Oui, et je pense qu'il y a cette peur de ne pas s'en sortir et une dévalorisation. Il y a des gens beaucoup plus malheureux que moi et pourquoi je suis déprimée ? J'exagère. Voyez, il y a une dévalorisation narcissique en fait et une méconnaissance parce que se traiter rapidement pour une dépression, c'est sortir de cette ornière rapidement également.
Et est-ce qu'on peut avoir honte aussi ? Il y a une espèce de connotation négative autour de la dépression. Est-ce qu'on a honte de s'imaginer en position de faiblesse ?
Oui, ça c'est vraiment un manque de connaissances. Et moi, je pense que à l'école, on devrait bien expliquer ce genre de choses, parce que il n'y a pas de honte à être un moment de faiblesse, puisque tous les êtres humains ont des moments de faiblesse. Donc, il faudrait banaliser les choses.
Et un point important, est-ce que tout le monde peut être concerné ?
Oui, tout le monde peut être concerné, quel que soit l'âge, et tout dépend effectivement des facteurs extérieurs. Et du vécu de la personne.
Alors souvent, on lit, on entend que les femmes sont quand même plus concernées par la dépression.
Oui, ça, il faudrait faire des statistiques un petit peu précises, parce que souvent, les hommes parlent peu. Hein, et notamment, en psychothérapie, il y a beaucoup moins d'hommes qui vont en thérapie que de femmes.
Alors, docteur Gavard, on va le voir, des solutions existent, mais c'est important d'insister sur le fait qu'il faut se soigner et ne pas justement laisser les idées noires s'amplifier et prendre de la place du terrain.
Oui, vous avez tout à fait raison, parce que on peut arriver à une situation grave de personnes qui ne se lèvent plus, qui restent à la maison, qui se coupent des autres, et aussi à des tentatives de suicide, voire des suicides.
Tout de suite, on va donner la parole aux auditeurs et auditrices de Priorité Santé.
Priorité santé sur RFI.
Et tout de suite, notre première auditrice, c'est Gazelle, qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Gazelle.
Bonjour à vous en studio.
Bonjour, on vous écoute.
Alors voilà, moi je suis régulièrement sujette à la mélancolie. Ça arrive en général après une dispute avec mon conjoint. Ça peut durer quelques heures ou ça peut durer quelques semaines. Dans ces moments, j'ai des pensées très dévalorisantes au sujet de ma personne. Alors du coup, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un lien entre les états de mélancolie et la dépression ?
Merci beaucoup Gazelle pour votre question. Docteur Gavard, je me tourne vers vous. À partir de quel moment on est en dépression ? Donc, est-ce qu'il y a un rapport entre mélancolie et dépression ?
Alors, mélancolie, là j'entends que c'est un mot qui était employé comme tristesse, hein, des moments de coup de blues. Alors évidemment, si c'est répété, si c'est fréquent, ça peut tout à fait être un symptôme de dépression. Alors, en psychiatrie, le terme mélancolie est la forme la plus grave de dépression. Donc il faut vraiment faire la différence. La mélancolie utilisée comme ça veut dire la tristesse, en fait. Alors, là, ce que l'on voit, Gazelle, c'est que vous vous sentez mal après une dispute. Et en fait, ce qui est quand même très intéressant à savoir, c'est que notre inconscient nous envoie des symptômes comme l'anxiété, la tristesse, etc., pour nous avertir que quelque chose ne va pas bien. Si nous repérons, vous notamment, cette mélancolie, si nous repérons ce symptôme, il est fondamental d'aller voir ce qui se passe. Quelle est la cause qui a pu déclencher ça ? Vous parlez des disputes avec votre conjoint. Alors, vous dites que vous vous dévalorisez à chaque fois. Peut-être que vous pourriez prendre un petit peu de recul pour voir ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez vraiment eu tort de dire quelque chose, de faire quelque chose ? À ce moment-là, vous pouvez corriger votre attitude. Ou est-ce une problématique conjugale à découvrir, à comprendre et peut-être discuter avec votre mari ? Je pense que Le côté répétitif de la situation veut dire que vous n'avez peut-être pas tout à fait identifié la cause et trouvé une solution.
Gazelle, est-ce que vous avez consulté un médecin ou un psy?
Jamais, justement. Je ne suis jamais allée.
Mais vous pourriez peut-être le faire, ne serait-ce que pour faire le point. Parce que vous voyez, vous êtes dans une situation répétitive et les mêmes causes entraînant les mêmes effets. Il faut bien identifier la cause pour changer quelque chose.
Gazelle, est-ce qu'on a répondu à vos interrogations?
Oh oui, merci beaucoup.
Merci beaucoup et belle journée à Yaoundé. On va passer le micro de Priorité Santé à Claude qui nous appelle de Marseille en France. Bonjour Claude.
Oui, bonjour, Priorité Santé.
On vous écoute.
Alors, j'ai une question à poser au docteur.
Oui.
Oui, je vis la dépression depuis un certain nombre d'années, environ plus de 15 ans. Et j'aimerais savoir pourquoi lorsqu'on est en crise, on ressent le vide. Et on ressent la perte de son corps, en fait, de toute sensibilité.
Claude, est-ce que vous pourriez nous décrire vos crises pour bien comprendre de quoi vous parlez?
Alors, c'est la tristesse au quotidien. Et avec le temps, j'ai appris à l'échelonner. Donc, au quotidien, je suis à 10, 15...
Ça veut dire que vous la numérotez sur une échelle, c'est ça?
Oui, oui, tout à fait. Et pendant les grosses crises, ça va jusqu'à 40, 80. Et lorsque je suis à 60, 70, je ne ressens plus le corps du tout, complètement vide. Et je suis obligé de frapper pour ressentir la douleur. Ressenti le corps, en fait.
De vous frapper, voilà. Vous voulez dire, pour ressentir physiquement, c'est ça?
Voilà, oui, de frapper soit le bras, sur le mur, pour pouvoir ressentir la douleur. Voilà, le ressenti au corps. Et il y a ce vide intérieur, on a l'impression que c'est tout vide. Voilà.
Est-ce que vous avez été suivi déjà par un psychiatre ou un psychanalyste, Claude?
Oui, un psychiatre déjà, et après c'était un psychologue, et aujourd'hui c'est un psychiatre.
Merci beaucoup pour d'avoir eu le courage de nous appeler. Claude, docteur Gavard, je me tourne vers vous. Les questions de Claude, pourquoi on ressent ce vide quand on est en dépression et pourquoi on ne ressent plus son corps?
Alors bon, ça ce n'est pas forcément un symptôme très fréquent. Ce que j'entends de ce que dit Claude, c'est qu'il parle de moments vraiment extrêmement pénibles et ce qui ressemble à ce qu'on peut appeler une attaque de panique, hein, avec vraiment une perturbation des sensations. Alors, lorsque Claude vous dit que vous êtes obligé de vous frapper, là, le mot obligé me laisse extrêmement perplexe, parce que vous savez qu'en fait, vous n'avez pas de trouble de la sensibilité installée, c'est juste une sensation de panique. Et donc, surtout, j'aurais un conseil à vous donner, arrêtez de vous frapper, puisque vous savez pertinemment que les choses vont retourner à la norme un petit peu plus tard. Alors, ces attaques de panique que vous ressentez, effectivement, peuvent être traitées, et donc vous êtes suivi par un psychiatre, donc il doit le faire, mais aussi, ce serait intéressant de voir ce qui se passe, qu'est-ce qui déclenche ça au niveau d'une insatisfaction de votre vie. Parce que si vous ne mettez pas le doigt sur le facteur déclenchant, ça risque de continuer comme ça. Alors, j'ai une question à Claude. Est-ce que ça se passe tout le temps ou est-ce qu'il y a des moments de la vie ou des endroits où il n'y a pas de crise?
Alors, déjà, je voulais dire, au quotidien, c'est la tristesse, hein. Et avec le dégoût de beaucoup de choses.
Oui.
C'est-à-dire le dégoût de me manger, dégoût de par exemple faire de la cuisine, manger, ou parfois prendre douche. Et avec étant donné que je suis professionnel, donc je me force. Et lorsque le dégoût des choses augmente avec le temps, ce dégoût peut arriver à 40, à 60. C'est-à-dire qu'on n'a plus, on perd toute notion. de temps, on ne sait plus quel jour on est, on ne sait pas quelle heure fait-il.
Vous perdez vos repères, c'est ça?
Voilà, on perd tous les repères et on a le dégoût même de tout. Même du monde.
Oui, Claude, en fait, là, vous décrivez dans ce dégoût et cette difficulté à faire les choses, un des symptômes très importants de la dépression. J'ai entendu dans ce que vous disiez que vous êtes professionnel, comme si peut-être au travail, il y a moins de crises. Et moi, je trouve que c'est un facteur qui serait extrêmement rassurant de voir que lorsque vous êtes très concentré sur quelque chose qui vous intéresse, vous êtes comme protégé dans un cocon. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important de voir qu'il y a un certain degré de contrôle de vos crises. Et ça, c'est un facteur rassurant pour vous.
Une dernière question, docteur. Et qu'est-ce qui cause les... Parfois, il m'arrive de ressentir les odeurs nauséabondes. Et je demande aux personnes qui sont à côté de moi si elles ressentent la même chose. Elles me disent non.
Oui, vous pouvez avoir une hypersensibilité. Bon, écoutez, ça, de toute façon, à partir du moment où les choses reviennent à la norme, en dehors de vos crises, vos attaques de panique, je pense qu'effectivement, prenez ça. Enfin, je pense que quand vous avez une attaque comme ça, sachez que ça va revenir à la norme peu de temps après, parce que les attaques de panique ne durent pas dans le temps. Et de plus, vous êtes suivi et donc sûrement traité pour votre dépression, donc les choses vont évidemment s'améliorer.
Donc c'est important de suivre son traitement médicamenteux. Merci beaucoup Claude pour votre témoignage. Prenez soin de vous à Marseille. Je vais passer le micro maintenant à Omar qui est à Ziguinchor au Sénégal. Bonjour Omar.
Bonjour.
On vous écoute.
Ok, ma question parce qu'il y a un de nos...
Omar, on vous entend mal. Est-ce que vous êtes en haut-parleur? Si c'est le cas, il ne faut pas être en haut-parleur. Prenez le téléphone le plus près de vous.
Je suis en parleur.
Ah non, il ne faut pas être en haut-parleur. Enlevez-le et mettez-le près de votre bouche.
Ok, je suis en...
Voilà. Allez-y, on vous écoute.
Ok, ma question est de... Un de nos profs...
Je suis désolée Omar, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas assez. Est-ce que vous pouvez rapprocher encore le téléphone? Sinon, on vous rappellera après.
Ok, merci.
Allez-y.
Alors, je dis, il y a un de nos frères proches, il a environ 26 ans, mais il est un peu écarté de ce qui se passe. Une fois après, il se menace les populations, même si vous venez pour discuter avec lui, il se met en colère. Maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est la cause.
Merci pour votre question, Omar. Docteur Gavard, ce que nous explique cet auditeur, c'est qu'un jeune homme, il a un ami donc de 26 ans, qu'il semble être en état dépressif et qui a des crises, qui insulte et menace les gens autour de lui. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que c'est une dépression? Quels sont les impacts? C'est un peu les questions d'Omar.
Là, je crois que lorsque le tableau est si mince, c'est très difficile de porter un diagnostic. Parce que, vous savez, en tant que psychiatre, on voit très fréquemment des personnes qui parlent de dépression alors qu'il ne s'agit pas forcément de dépression ou pas seulement de dépression. Donc là, l'agressivité, les insultes, ça peut éventuellement être dû à quelqu'un qui n'en peut plus, qui est exaspéré partout, pourquoi pas. Bon, il faut voir si derrière cette dépression, il n'y a pas autre chose, une autre problématique. Et ça, je crois qu'il est indispensable de consulter, parce que sur deux symptômes, je ne peux pas faire de diagnostic.
Alors ça m'amène à une question, est-ce qu'il y a un critère déterminant pour une hospitalisation?
Ah oui, c'est la dangerosité pour soi ou pour les autres. Donc oui, bien sûr.
Merci Omar pour cette question et on vous souhaite une belle journée à Ziguinchor au Sénégal. On va prendre encore une auditrice, c'est Meriem qui nous appelle de Nouakchott en Mauritanie. Bonjour Meriem.
Bonjour.
On vous écoute.
J'ai ma maman qui a eu une dépression en 2012, fin 2012, début 2013. Ça a duré une année. Elle était sous antidépresseur. Et ça va mieux. Et depuis, elle n'a pas eu de dépression. Mais ça fait 2 mois qu'il y a une récidive due à un conflit familial. Et depuis lors, elle a des angoisses, des idées noires. Et elle est sous antidépresseurs et anxiété. Le Prozac 20 et l'Alprazin. L'Alprazin. Je ne sais pas si il y a l'ancienne dépression ou à ce nouveau conflit.
Merci pour votre question, Myriam. Docteur Gavard.
Oui, mais Myriam, donc alors déjà, à partir du moment où il y a eu plusieurs années où votre mère a été en forme, sans dépression, on ne peut absolument pas parler de récidive d'une ancienne dépression, puisque la dépression était guérie. Là, vous parlez de nouveaux facteurs déclenchants, conflit familial, donc c'est une nouvelle dépression. Hein ? Alors, la ménopause, est-ce que ça peut être un facteur aggravant ? Écoutez, oui, mais je dis un oui extrêmement léger. Là n'est pas le problème. Hein, il y a eu un conflit familial qui est un choc psychologique qui a entraîné une dépression, je le rappelle, qui est une maladie physique. Alors, à partir du moment où votre mère est suivie et qu'elle a très bien réagi aux antidépresseurs anxiolytiques, là, cette fois, vraisemblablement, il se passera la même chose. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter puisque votre mère est suivie. Alors, bon, maintenant, au niveau des récidives d'une dépression, vous savez, en général, ce n'est pas ce qui se passe. Si la personne a arrêté son traitement trop tôt, c'est la même dépression qui est là, et il n'y a pas de dépendance aux antidépresseurs, mais il faut traiter correctement une maladie, comme quand on a une jambe cassée, si on a un plâtre qu'on retire plus tôt, il n'y a pas de dépendance au plâtre, c'est que le plâtre a été retiré trop tôt, voilà.
Myriam, est-ce qu'on a répondu à vos questions ?
Non, le psychiatre, pas correctement, n'a arrêté le médicament qu'à l'avis du médecin.
Ah oui, mais oui, mais c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Hein. Donc, votre mère a été traitée pendant un an en 2012 et ça s'est très bien passé. Elle a cette expérience-là, donc il faut qu'elle soit suffisamment gentille avec elle-même pour reprendre un traitement, puisqu'elle sait qu'après elle va aller bien. Alors effectivement, ce qui serait quand même très important, c'est qu'il y ait une solution, une amélioration de ce conflit familial.
Merci beaucoup Myriam pour votre question et prenez soin de votre maman. On vous souhaite une belle journée en Mauritanie. On avait plusieurs autres auditeurs qu'on n'arrive pas à joindre, donc je vais prendre une ou deux questions pour vous, docteur Gavard. Sangor, qui en RDC nous appelait en nous expliquant qu'il écoutait plusieurs fois Priorité Santé et que ça l'avait aidé, les médecins en plateau l'avaient aidé. Et aujourd'hui, avant il réagissait au quart de tour et aujourd'hui il nous explique qu'il banalise les choses ou qu'il en rigole, qu'il a un comportement joyeux. Du coup, il voudrait savoir si c'est un défaut, une qualité, si c'est une bonne attitude ou si c'est un effet secondaire en fait de la guérison, j'ai envie de dire.
Oui, alors en fait, je crois que d'après ce que dit Sangor, les gens étaient habitués à le voir irascible, peut-être agressif, etc. Bon, il a été traité et il a appris à prendre du recul, ce qu'on appelle le recul ou le lâcher prise, c'est-à-dire de ne pas réagir aux petites choses banales qui peuvent passer. Notamment, la méditation aide formidablement à ça. Et qu'il soit joyeux, si ce sont des circonstances joyeuses, c'est quand même très heureux.
Plutôt une bonne nouvelle.
Plutôt une bonne nouvelle.
Ensuite, j'ai une question sur Facebook de Gorel qui demande si la dépression est héréditaire.
Alors, la dépression a un facteur héréditaire dans la bipolarité. Ça, c'est connu. Sinon, non. Alors, ça peut être environnemental. Quelqu'un qui est dans une famille où il y a beaucoup de tristesse pour des raisons tout à fait justes le plus souvent peut avoir tendance à se déprimer. Mais au niveau héréditaire, c'est très rare.
Ce qui m'amène d'ailleurs à une autre question de Ezeor qui est en Côte d'Ivoire qui demande sur Facebook comment éviter les idées noires type suicidaire pendant une période de dépression. En fait, la question c'est comment agir au quotidien pour avoir les idées claires. Est-ce qu'il y a des moyens de prévention, une hygiène de vie à avoir?
Alors, au niveau de la dépression, l'idée suicidaire est un symptôme assez fréquent. Et en fait, je vais vous dire quelque chose qui peut tout à fait étonner. C'est une soupape de sécurité. Parce que lorsqu'une personne n'en peut plus, savoir qu'éventuellement la situation pourrait s'arrêter est un facteur rassurant. Imaginons, et ça je le dis aux patients déprimés souvent, s'ils avaient une baguette magique, est-ce qu'ils demanderaient d'être déjà morts et enterrés, ou est-ce qu'ils voudraient que la situation actuelle se solutionne et qu'ils aillent mieux? Tout le monde répond, évidemment j'ai pas envie de mourir, j'ai envie que ça aille mieux. Donc on voit que l'idée suicidaire est souvent une soupape de sécurité pour se dire, ça peut s'arrêter. Sauf que, Malheureusement, il y a des patients qui passent à l'acte en tentative de suicide, voire en tentative de suicide réussie, c'est-à-dire au suicide. Donc, attention, il y a un vrai risque et c'est pour ça qu'il faut se faire traiter et suivre.
Merci à tous, auditrices, auditeurs de Priorité Santé, pour vos appels, vos messages, vos questions, vos témoignages et surtout votre confiance. Docteur Gavard, on a commencé à l'évoquer avec les auditeurs. En termes de traitement, quelle prise en charge de la dépression est disponible aujourd'hui?
Alors, les traitements médicamenteux sont remarquablement bien tolérés et efficaces maintenant et ne créent pas de dépendance. Donc, il y a les antidépresseurs, par définition, contre la dépression. Il y a les anxiolytiques que l'on peut associer sur un temps très court, le temps que le traitement antidépresseur soit efficace, 15 jours, 3 semaines, commence à être efficace. Et par contre, les anxiolytiques sont efficaces aussitôt, au bout d'une demi-heure. C'est-à-dire qu'on a intérêt souvent à associer en tout début de traitement quelque chose qui va apaiser le patient aussitôt. Il peut y avoir recours aux somnifères sur quelques jours s'il y a des troubles du sommeil importants.
Et donc, est-ce qu'on peut arrêter son traitement au premier signe positif, si le moral s'améliore?
Ah non, c'est dommage, parce que le cerveau n'a pas repris son fonctionnement normal. Il y a une amélioration, voire une disparition des symptômes, mais comme une courroie d'entraînement dans un moteur qu'il faut changer, là, il faut réapprendre au cerveau pendant quelques temps, quelques mois, on dit 6 minimum, à refonctionner normalement. Donc, arrêter trop tôt montre à nouveau les symptômes de cette même dépression.
Alors, il y a une des idées fausses qui circulent autour de la dépression et du traitement, c'est la dépendance face aux médicaments.
Ah oui, tout à fait. Alors, effectivement, ça ne vient pas de nulle part. Jadis, il y avait des barbituriques pour calmer les angoisses et à ce moment-là, effectivement, il se créait une dépendance. Là, à l'heure actuelle, si on prend longtemps des anxiolytiques, je ne parle pas des antidépresseurs, des choses contre l'angoisse, beaucoup longtemps, il faudra diminuer doucement le traitement. Parce que calmer le cerveau par une grosse prise d'anxiolytique et ne plus rien prendre le lendemain, ça fait un choc. Mais il n'y a pas une réelle dépendance puisqu'on peut, en diminuant doucement, arrêter le traitement anxiolytique. Le traitement antidépresseur doit être diminué, arrêté, mais évidemment, c'est le psychiatre qui donnera l'information.
Vous restez avec nous, docteur Gavard. Tout de suite, je vous propose de prendre la direction du Bénin.
RFI.
Et on retrouve le professeur Prosper Gandao. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de psychiatrie du centre hospitalier départemental et universitaire du Borgou au Bénin et recteur de l'université de Parakou. Professeur Gandao, est-ce que vous disposez de chiffres sur la fréquence de la dépression au Bénin?
Oui, tout à fait. Une étude récente effectuée sur l'ensemble du territoire national a montré que 29% des Béninois souffrent de la dépression. En consultation psychiatrique, c'est encore plus grand. Ça avoisine la moitié des cas que nous avons. Et c'est plutôt 2 femmes sur 1 homme qui en souffrent. Et la dépression est plus fréquente chez les adolescents, les adultes que chez les personnes âgées. Voilà à peu près de façon ramassée ce que je peux vous dire, donc des chiffres concernant la dépression dans notre pays.
Et quels sont les symptômes qui sont exprimés par les patients qui viennent vous voir?
Les patients qui viennent me voir se plaignent souvent d'insomnie, de fatigue, de manque d'appétit, ils sont anxieux. Ils ont une impression d'impuissance, de désespoir. Et en plus, la particularité chez nous, c'était avant de venir, ils ont eu le temps de se promener un peu partout, parce que de déprimer chez nous, c'est encore présenter des signes qui font penser à une atteinte physique organique. Donc, ils somatisent beaucoup. Voilà, et c'est que ils ont fait le tour des autres, qu'ils viennent au dernier moment de voir. De façon distincte, parce que venir en psychiatrie, c'est pas bien apprécié.
Et justement, est-ce qu'il y a d'autres pathologies mentales qui sont associées à la dépression?
Bien sûr, toutes les pathologies mentales peuvent être associées à la dépression. Mais ce qui fait que la population n'aime pas venir en psychiatrie, c'est que quand vous venez sur l'hôpital une aide en psychiatrie, on vous colle l'étiquette de malade psychotique, donc de fou, entre guillemets. Alors, quand bien les gens n'ont pas une pathologie mentale, dont la dépression peut être un accompagnement. Il n'aime pas venir, il préfère peut-être le temps chez les autres thérapeutes organiques que de venir voir un psychiatre.
Et justement, vous le commencez à en parler. Est-ce qu'avant de venir vous voir, les patients donc ont recours à d'autres soignants?
Ça, c'est une très belle question parce que la dépression est une petite histoire chez nous. Dans un premier temps, on disait que c'est une maladie des pays capitalistes, c'est pas une maladie donc du noir, c'est une maladie donc du blanc. Donc le noir est assez dur, est assez solide pour souffrir de la dépression. Si bien que quand les premiers symptômes ont apparu et que les gens ont été confrontés devant à ces plaintes, ils disent que c'est dû à l'engouement, la sorcellerie, c'est dû à d'autres choses, la transgression des interdits ou bien des rites d'initiation mal faits, etc., etc. Ce qui fait que ce n'est pas effectivement le psychiatre qui est sollicité. Et c'est quand ils ont échoué là, ils vont maintenant chez les autres organismes, parce qu'à côté de ça, les troubles somatiques les y amènent, et tous les bilans effectués se soldent donc par, on ne voit rien, le plan donc de l'examen paracliniques qui sont effectués ici. Et c'est en ce moment que les gens disent, ou alors c'est la dépression avant de venir chez nous, ouais, l'itinéraire thérapeutique les amène fait bien tout, chez les guérisseurs, chez les religieux et chez les autres médecins organismes avant de venir chez nous.
Et alors, une fois que les patients arrivent jusqu'à vous, quel traitement, quelle prise en charge vous proposez, professeur Gandao?
Oui, nous avons la prise en charge d'abord médicamenteuse. Les médicaments sont utilisés et à côté des médicaments, en fonction des facteurs de risque qui sont associés au déclenchement de la maladie, on peut être d'autres prises en charge qui sont des prises en charge qui ne sont pas médicamenteuses.
Et alors, par rapport à tout ce que vous nous expliquez, d'après vous, quel type d'action il faudrait engager pour un meilleur dépistage et une meilleure sensibilisation, j'ai envie de dire?
Oui, en fonction du temps perdu, parce que mieux, plus tôt on installe un équipement de traitement, mieux ça vaut. Moi, je crois que premièrement, il faut que la population sache que l'Africain n'est pas différent des autres, que les problèmes existentiels, les difficultés, les problèmes conjugaux, les échecs, le chômage, qui s'observent dans des pays plus développés que les nôtres, s'observent également chez nous que l'Africain n'est pas différent, il peut en subir les conséquences et être déprimé. Ensuite, moi je crois que vu toutes les difficultés que les gens éprouvent encore à nos jours pour aller voir les psychiatres, il est préférable de voir au niveau des programmes de formation des médecins généralistes les notions d'indication ou bien les notions de dépression, le diagnostic de dépression pour leur permettre de faire vraiment un diagnostic et afin que les malades ne soient pas obligés de venir tardivement, qu'ils soient en mesure de les prendre dans la mesure du possible et les orienter quand ils ne peuvent pas faire autrement.
D'expliquer également qu'il y a un traitement adapté en fonction de chaque évolution du patient. Merci beaucoup, professeur Prosper Gandao, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chef du service de psychiatrie du centre hospitalier départemental et universitaire du Borgou et recteur de l'université de Parakou au Bénin.
Parakou, 106.1 FM.
Docteur Gavard, on vous retrouve pour la dernière partie de notre échange. On en a un peu parlé également avec les auditeurs, mais quel que soit le contexte, le rôle de l'entourage et l'accompagnement sont déterminants.
Oui, c'est très important. Mais il y a souvent un manque d'informations, parce que considérer quelqu'un qui a une dépression comme un malade mental, c'est vraiment s'éloigner de la réalité. C'est quelqu'un qui a un moment de souffrance, et s'il est compris par son environnement, il s'en sortira plus rapidement. Et très fréquemment, l'environnement, la famille demande à la personne déprimée de se secouer, qu'en fait, il n'est pas si malheureux.
Pour s'en sortir.
S'en sortir. Or, en fait, ça n'a rien à voir. Hein. Il y a une problématique physique qui doit être résolue, pas seulement par les antidépresseurs et les anxiolytiques, parce qu'il y a tout un panel d'accompagnement, notamment la psychothérapie qui est importante, la méditation, etc. Mais l'environnement est fondamental, il faut qu'il soit bienveillant.
Alors, j'allais y venir, on a parlé des traitements médicamenteux. Qu'est-ce qu'il en est des thérapies ?
Alors, les thérapies sont fondamentales, d'après moi, pour déterminer la cause de la dépression, de façon à changer les causes, de façon à ce qu'il n'y ait pas à nouveau d'autres dépressions, les mêmes causes entraînant les mêmes effets. Donc ça, c'est fondamental. Très fréquemment, il s'agit aussi de traumatismes d'enfance qui resurgissent pour une raison ou pour une autre. Quelquefois, il y a des dépressions au long cours, mais depuis l'enfance, quelqu'un qui est triste comme ça au quotidien arrive à être un adulte triste et quelquefois émerge une réelle dépression.
Donc il y a plusieurs sortes de thérapies analytiques, comportementales, on parle d'hypnose en Europe plutôt qu'au Sud.
Oui, alors la thérapie est vraiment très importante. Les thérapies comportementales, c'est vraiment pour corriger un comportement acquis qui est délétère. Et il y a toutes les techniques douces de méditation. La méditation est très importante, on a vu que...
La relaxation
La méditation permet au niveau biochimique d'améliorer les choses, il faut le savoir. Il y a la relaxation, il y a le sport bien entendu, mais connaître la cause est vraiment une chose importante et pouvoir changer des choses de sa vie aussi, parce que souvent c'est une alerte de notre inconscient qui dit là ça ne va plus, je dois changer des choses.
Et est-ce qu'il faut forcément passer par cette double approche médicamenteuse et thérapeutique ?
Si il n'y a que le médicament et qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé, on ne va pas améliorer ses conditions de vie. Donc là, on a un risque de nouvelle dépression.
Et vous, comment vous savez quel diagnostic il faut pour chaque patient ? Quelle thérapie la plus adaptée ?
Alors, en général, lorsque le patient vient voir le psychiatre, donc il a un malaise, le diagnostic pour un professionnel est facile à poser. Donc, au niveau du traitement, c'est fréquemment l'antidépresseur. Il y a des patients qui ne veulent pas d'antidépresseur. Dans ce cas-là, on peut, avec la thérapie, améliorer aussi certaines choses. Quelquefois, il faut quand même repasser par la case antidépresseur. Et là, j'insiste sur toutes les méthodes parallèles, sophrologie, méditation, l'hypnose, qui peut lever des inhibitions et augmenter la confiance en soi, parce que très fréquemment, c'est un problème aussi de confiance en soi. Et donc, en thérapie, on analyse les situations, on voit quel pan améliorer.
Et vraiment, en trois mots, pour conclure, est-ce que vous auriez des conseils de prévention, d'hygiène de vie contre la dépression ?
Alors, bon, j'ai envie de dire prendre le recul et plutôt que de se dévaloriser, regarder ce qui dysfonctionne et voir ce que l'on peut changer.
Merci, donc parler et s'écouter
parler,
notamment.
Voilà.
Merci docteur Marie-Claude Gavard d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin, psychiatre, psychothérapeute et psychanalyste à Paris et auteur de l'ouvrage « Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ?» aux éditions Marabout.
Priorité santé sur RFI.
Tout de suite, nous retrouvons Béatrice Garrett, directrice de la Fondation Pierre Fabre, qui accompagne les pays du Sud dans l'accès aux soins et aux médicaments à l'occasion de la remise des diplômes de la 6e promotion du master Mekong Pharma au Vietnam. Béatrice Garrett, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, en termes d'accès aux médicaments, quel est le contexte au Vietnam en Asie du Sud-Est ?
Alors, en Asie du Sud-Est, comme dans malheureusement beaucoup des pays en développement ou émergents, on assiste depuis les années 2000 à une véritable invasion des faux médicaments. C'est des médicaments sous-standards ou falsifiés qui, d'après l'OMS, représentent maintenant pratiquement 30% des médicaments en circulation. Alors, les autorités ont conscience de ça. C'est très difficile à appréhender. C'est très difficile de lutter puisque c'est aussi à la fois le résultat d'un manque de qualité dans la fabrication, mais aussi c'est une activité criminelle très lucrative qui n'est pas facile à éradiquer.
Alors la Fondation Pierre Fabre va célébrer donc le 11 décembre à Hanoï au Vietnam la remise des diplômes de la 6e promotion du master Mekong Pharma. Béatrice, quel est ce programme de formation et à qui s'adresse-t-il ?
Alors ce programme de formation, en fait, il prend la suite d'un engagement depuis 20 ans de la Fondation Pierre Fabre d'aider justement en Asie du Sud-Est les pays à former des pharmaciens au meilleur niveau. Parce que d'abord, on manque de pharmaciens et ce sont eux qui, dans la chaîne du médicament, peuvent justement lutter contre les mauvais médicaments et promouvoir un médicament de qualité. Alors on a commencé par aider en fait la construction de la faculté de Phnom Penh en 2001, puis on a réhabilité la faculté de pharmacie de Vientiane au Laos en 2004. Et en 2012, le programme Mekong Pharma a pris la suite en fait de cette, ce renforcement de la formation des pharmaciens au niveau formation initiale pour former des vrais spécialistes au niveau master. Et c'est une grande coopération entre quatre universités asiatiques, donc Cambodge, Laos, Vietnam, quatre universités françaises, de façon à délocaliser en fait la formation au niveau master dans ces pays. Et nous allons donc fêter 7 ans de programme et donc 6 promotions qui ont été formées, 133 donc pharmaciens diplômés au niveau master, à la fois dans des disciplines concernant la qualité du médicament, mais aussi la pharmacologie clinique, comment on peut faire des essais cliniques dans les hôpitaux, mais également tout ce qui est le développement industriel du médicament et tout ce qui est aussi la pharmacovigilance, le suivi du médicament chez l'homme.
Et donc concrètement, comment est-ce que vous accompagnez cette formation des spécialistes du médicament et surtout en quoi c'est important ?
Alors, c'est très important de façon à ce que les pays eux-mêmes soient autonomes avec des facultés, avec de bons professeurs, de bons formateurs qui vont former de bons pharmaciens qui vont ensuite aller non seulement dans les officines mais aussi dans les hôpitaux, dans les services publics pour renforcer toute la chaîne du médicament à tous les niveaux, quoi, au niveau du terrain dans la dispensation du médicament mais aussi auprès des autorités pour les conseiller, pour mettre en place les bons systèmes. Alors nous, en fait, on a travailler en finançant et en organisant cette délocalisation de la formation. Donc, ce qui fait qu'il y a à peu près plus de 80 enseignants en fait français qui ont voyagé pendant 7 ans et qui ont dispensé des cours dans les facultés asiatiques. Mais on a également permis aux enseignants de ces facultés d'être aussi renforcés dans leur formation. Et on l'a fait également avec le soutien de l'Agence universitaire de la francophonie.
Et en 2020, une nouveauté, donc le réseau Mekong Pharma, de quoi s'agit-il ?
Alors en fait, c'est 133 pharmaciens qui sont maintenant diplômés au niveau master dans ces trois pays, sont allés à la fois donc travailler dans le secteur public, travailler aussi dans l'industrie locale, mais pour 45% d'entre eux, ils sont professeurs dans des universités, donc au Cambodge, au Laos, au Vietnam. Et certains ont même poursuivi au-delà du master en doctorat de recherche, d'ailleurs soutenu par la Fondation. Et notre idée, c'est de s'appuyer sur ce réseau maintenant de professeurs dans ces universités pour faire de la formation continue, du renforcement de connaissances, de façon à ce qu'ils soient maintenant en capacité dans les années qui viennent de créer eux-mêmes leur formation au niveau master et de faire de la recherche. Et donc c'est de partir de ce réseau, de le renforcer en continuant à finalement combler les lacunes, donc en organisant des séminaires de formation dans les universités asiatiques, mais aussi en France, en travaillant également avec des laboratoires de recherche et en les soutenant pour qu'ils travaillent ensemble sur des programmes de recherche liés aux priorités de santé publique de leur pays.
Merci beaucoup Béatrice Garret d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice de la Fondation Pierre Fabre.
Merci, à bientôt.
Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, Juliette Brault, Beverly Santou, Assetou Samaké, Pauline Leduc à la réalisation et Laurie Plisson aux auditeurs. Demain, vous retrouverez Caroline Paré pour une émission spéciale à l'hôpital de Pandi à Bukavu, à l'est de la RDC, où le docteur Denis Mukwege prend en charge les femmes victimes de violences sexuelles. On vous donne rendez-vous à 9h10 en temps universel et d'ici là, bonne journée sur RFI.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance. N'oubliez pas de renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suno Assurance, notre métier, l'assurance. Tout à l'heure.